Les podcasts de Nouvelle Acropole France.
Et pour aborder maintenant le thème de ce soir, une première question, si tu veux bien. Qu'est-ce qui pourrait rapprocher la philosophie bouddhiste du stoïcisme? Et en quoi cela peut-il nous concerner aujourd'hui?
Eh bien, je dirais que s'il y a deux concepts qui rapprochent bouddhisme et stoïcisme, ce sont bien l'impermanence et l'interdépendance. Et ces mots résonnent d'une façon toute particulière et intense dans notre monde d'aujourd'hui et dans cette année où la pandémie unit de façon dramatique la planète entière. Ces philosophies avaient une conscience très claire que le monde est volatile, incertain, ambigu et complexe. Et dans des époques instables extérieurement, ils ont apporté une réponse fondée sur la stabilité intérieure et la possibilité de recréer un ordre à l'intérieur de soi-même.
Justement, Laura, peux-tu nous éclairer? Comment peut-on construire cette stabilité intérieure dont tu parles?
Eh bien, je vais leur céder la parole en reprenant deux belles pensées, une de Marc Aurèle et l'autre de Bouddha. Car ce sont les philosophes eux-mêmes qui nous répondent avec l'image du phare et de l'île de stabilité qu'il est possible de construire à l'intérieur de soi. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous dit dans les Pensées pour moi-même: ressembler au promontoire contre lequel incessamment se brisent les flots. Il reste debout et autour de lui viennent s'assoupir les gonflements de l'onde. Et comme un écho résonne une pensée de Bouddha. Par un vaillant courage, un esprit vigilant, la maîtrise de soi et les renoncements, les sages créent une île qu'aucun flot ne pourra submerger. En fait, bouddhistes et stoïciens nous invitent à développer une philosophie qui peut se résumer par ces différents concepts. Liberté intérieure, capacité de compter sur soi-même, mieux connaître ses défauts et ses qualités, distinguer ce qui est essentiel de ce qui est accessoire et ce qui vaut la peine d'être vécu, c'est pourquoi ça vaut la peine de se battre. Capacité de faire face aux difficultés et à l'adversité à partir de sa propre centralité et de sa force intérieure. En résumé, faire confiance à nos propres ressources au lieu de toujours dépendre de celles des autres.
Laura, pour illustrer tes paroles, est-ce que tu pourrais nous parler de la vie de Bouddha, de la vie de Marc Aurèle, et en quoi on peut dire que leur vie a été un exemple de leur enseignement?
Eh bien, si nous parlons de la vie de Bouddha, qui était au départ le prince Siddhartha Gautama de la famille de Sakyamuni. On lui attribue, disons, comme date de son existence, de 563 avant Jésus-Christ jusqu'à 480 avant Jésus-Christ. Il naît comme un prince d'un petit royaume du Népal actuellement, le royaume des Kapilavastu. Et effectivement, déjà à sa naissance, par la suite, sera entouré de certaines images miraculeuses, comme celle qui dira qu'il va naître et en naissant, il va réaliser 7 pas dans chaque direction de l'espace en disant un Bouddha est né. En fait, il aura une vie des princes, tout à fait protégé par sa famille, recevant la meilleure éducation, étant très doué dans toutes les disciplines. Et quand il arrive l'âge de se marier, on choisira une princesse et il passera un certain nombre d'épreuves qui lui feront gagner, disons, la main de cette princesse qui s'appelle Yasodhara, de qui il aura un enfant qui s'appelle Rahula. Sa vie se déroule dans tous les conforts, disons, et la tranquillité d'un royaume, avec le palais d'été, les palais d'hiver, les palais de la saison de pluie. Et tout est fait pour que ce jeune prince, qui est extrêmement sensible à la souffrance, enfin des choses un tout petit peu qui pourraient l'interroger au-delà de l'abstraction des connaissances scientifiques ou de la beauté de l'art, eh bien, son père fait tout pour qu'il ne voit rien de néfaste ou de douloureux autour de son palais. Mais le prince se demande un jour d'aller visiter la ville sur laquelle il va régner. Et c'est à cette occasion, conduit par un cocher, qu'il va faire trois rencontres qui seront très marquantes. En fait, ces rencontres sont celles avec les messagers des Yamas, les messagers de la mort et justement de l'impermanence. Il voit sur le bord du chemin d'abord un malade, quelqu'un qui souffre, il pose la question, qu'est-ce que c'est? C'est le premier qu'il voit de sa vie. Et quand il demande si cela peut arriver à tout le monde, le cocher dit oui, peut-être oui, mais peut-être pas. Ensuite, c'est la vision d'un vieillard, il aura la même réponse. Mais quand il trouve un convoi funéraire avec un mort, la question de si cela peut arriver à tout le monde, la réponse sera à cette question, inévitablement, ça arrive à tout le monde. Le prince est ébranlé, parce que tout ça le sort de cet apparent univers où tout est beau, parfait, paradisiaque. Et il se pose la question de comment peut-on construire dans un univers éphémère. En partant, il voit un sage et il décide lui-même de se retirer du monde pour faire les pratiques ascétiques les plus fortes pour essayer de voir s'il peut trouver une réponse à la question du sens de l'existence. Il met en danger sa vie au bout de 6 ans de grandes pratiques ascétiques extrêmes. Et à la fin, il accepte un bol de riz qu'il offre quelqu'un au passage. Il découvre là qu'effectivement, comme la corde de la vina, si elle est trop tendue, elle risque de casser. Si elle est trop molle, elle ne sent pas bien. Donc, en tout, il faut chercher le juste milieu. Il voyage et il arrive justement jusqu'à un arbre sur lequel s'est assis. Cet arbre s'appellera l'arbre beau, l'arbre de la bouddhi, donc de la sagesse. Et là, il va, au bout de méditation, se confronter avec Mara, les différentes formes de tentation, atteindre la sagesse, atteindre l'illumination, et là il deviendra le Bouddha, le maître donc éveillé, celui qui prend la terre à témoin et prend conscience en fait qu'il devient là un éveillé, puisqu'avant il était dans l'ignorance et dans le sommeil justement de l'ignorance. À partir de là, il va prêcher en transmettant les enseignements de la roue, de la loi, appelé le Dharma, et ceci jusqu'à la fin de son existence. Et à la fin, il se couche et il meurt entouré de ses disciples. Et là, il atteint le para-nirvana. Donc, en fait, dans la vie des Bouddhas, se trouve résumé l'ensemble de l'expérience humaine. Donc, une vie de plaisir, un peu dans la banalité, dans l'ignorance. Ensuite, une vie d'excès dans le pôle contraire pour arriver à la quête du juste milieu qui se résumera dans les 4 nobles vérités dont nous parlerons plus tard. Voilà ce qui nous apprend la vie des Bouddhas. Et si nous présentons Marc Aurèle. Alors, en ce qui concerne Marc Aurèle, il a vécu entre 121 et 180 après notre ère. Il est devenu le fils adoptif d'un empereur qui s'appelle Antonin le Pieux, sous l'instance en fait de l'empereur Adrien, qui voyait dans ce jeune garçon des qualités prometteuses. Mais il faut savoir qu'au départ, bien qu'il appartient à une famille, disons, proche des sphères de pouvoir de l'époque, son aspiration était plutôt de devenir philosophe, et plus particulièrement stoïcien. Donc il va se contraindre lui-même à vivre dans les conditions les plus rustiques. Et toute sa vie, il va garder ses qualités de modestie et disons de simplicité. En réalité, Antonin le Pieux, qui est un des empereurs les plus sages et les plus justes qui avaient régné dans ces premiers siècles, disons, de l'Empire romain, sera pour lui un mentor. Il va lui transmettre effectivement un certain nombre de valeurs qu'il appliquera tout au long de sa vie. Et il aura un certain nombre de maîtres de philosophie, de rhétorique, enfin, plein de maîtres qui vont l'enseigner. Et lorsqu'il va assumer les pouvoirs, en adoptant également ce pouvoir qu'il assume avec un demi-frère qui s'appelle Lucius Verus, qui va gouverner avec lui et qui sera un guerrier, un militaire assez doué dans beaucoup de campagnes qui devaient se mener dans l'Empire. Il va être confronté à beaucoup de guerres contre les Parthes, et une partie, disons, vers le nord de la Germanie et toutes les limites de la frontière dans la Pannonie. Donc, il aura beaucoup de moments, disons, des guerres assumées, il y a vaincre, il y a, disons, des confrontations, des guerres comme il y avait tellement dans l'Empire romain. Mais également, il y a eu une sorte de pandémie très sérieuse, on pense que c'était la variole, qui a peut-être transporté, on ne sait pas si c'est par les déplacements des légions, enfin, en tout cas, ils ont été soumis également à une grave, grave épreuve qui a décimé une bonne partie de la population, ainsi que des grandes inondations. Enfin, il y a eu un certain nombre d'épreuves dans lesquelles Marc Aurèle a fait preuve toujours de générosité en aidant et en vendant même toutes les richesses, disons, de la propre famille impériale pour aider justement à dépasser ces obstacles. Et dans toutes ces épreuves et toutes ces difficultés, il est toujours resté le même, attaché à ses préceptes philosophiques qu'il essayait de mettre en pratique tout au long de sa vie. À la fin de sa vie, qui se passera dans un Pannonie, sur un champ de bataille, donc le soir, sous sa tente militaire, il va écrire « Les pensées pour moi-même », qui en réalité étaient ses réflexions philosophiques, ses exercices du jour, pour répondre à une des pratiques des philosophes stoïciens qui était l'examen de sa conduite dans la journée. Et je voulais juste vous lire la dernière pensée de Marc Aurèle, qui est justement dans ses pensées pour moi-même, où il résume toute sa philosophie. Ô homme, tu étais le citoyen de cette grande cité. Que t'importe de l'avoir été 5 ans ou seulement 3? La règle qui est conforme aux lois est égale pour tous. Dès lors, quel mal y a-t-il à que tu sortes de la cité, d'où t'éloigne non point un tyran, non point un juge inique, mais la nature même qui t'y avait introduit? Ce n'est qu'un acteur qui tend la scène quand il reçoit congé du chef de la troupe qui le commandait. Mais je n'ai pas joué mes 5 actes, je n'en ai joué que 3. Tu les as bien joués. Et dans la vie parfois, la pièce est complète avec 3 actes seulement, car celui-là marque le terme où tout est accompli, qui naguère avait décidé que des éléments seraient combinés, et qui décide aujourd'hui qu'ils seront dissous. Quant à toi, tu n'es pour rien, ni dans un cas, ni dans l'autre. Pardon le cœur serein, car celui qui te délivre est plein d'une bienveillante sérénité. Voilà la dernière pensée de Marc Aurèle qui traduit tout cet consentement qu'avaient les philosophes stoïciens à la destinée et à l'existence, en essayant d'être le plus fidèle possible à l'accomplissement des lois de la nature.
Merci Laura. Est-ce que tu peux nous éclairer maintenant sur la place qui était faite à la pratique dans ces enseignements du Bouddha et des stoïciens?
Eh bien, pour ça justement, je commencerai par parler sur ce qui caractérise les textes que nous avons hérités directement des enseignements du Bouddha ou des stoïciens, qui sont en général des textes courts, comme les Dhammapada, qu'on appelle les dits du Bouddha, les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui étaient ses propres maximes et réflexions de chaque jour, ou les entretiens d'Épictète. Lire ces pensées, volontairement simples et d'une clarté puissante, et qu'on parlait avec un ami philosophe, qui vient nous donner des conseils individuels et universels à la fois. Il nous invite à réfléchir et surtout à les mettre en pratique. Alors, pour comprendre l'importance de la pratique, on va se rappeler de deux anecdotes, une d'Épictète et l'autre de Bouddha. Par exemple, Épictète, dans ses entretiens, témoigne déjà qu'à son époque, les apprentis philosophes se plaignaient parce qu'on se moquait d'eux, puisqu'ils étudiaient la philosophie. Alors il explique que c'était normal, car lorsque le berger conduit ses moutons dans la prairie et qu'il les ramène le soir dans l'étable, il ne leur demande pas si l'herbe leur a plu. Non, il regarde la qualité de leur laine et de leur lait, ce qui prouve que l'herbe était bonne. Avec l'enseignement philosophique, c'est identique. Il ne s'agit pas de discourir sur la philosophie, mais de pratiquer l'enseignement. Il faut donc les mâcher, l'avaler, les transformer en action, ce qui prouve qu'on l'a compris. Une autre parabole attribuée au Bouddha raconte qu'un guerrier venait de recevoir une flèche. Et quand les médecins sont arrivés, avant d'être soignés, les malades commence par leur demander « Mais dans quel angle exact a été tirée cette flèche? De quel bois elle était faite? Comment elle avait été construite? Dans quel style, etc. ?» Si on commence par investiguer sur toutes les caractéristiques de la flèche, les malades risquent de mourir très vite. Il vaut mieux laisser les médecins arracher la flèche et soigner les malades pour qu'ils puissent guérir rapidement. En fait, pour les bouddhistes et pour les stoïciens, L'urgence n'était pas l'accumulation des connaissances intellectuelles, mais la pratique de quelques principes simples, des pratiques d'ordre mental, car le plus difficile à maîtriser en soi-même, c'est l'esprit, qui, comme un cheval fougueux, part dans tous les sens. Bouddhisme et stoïcisme proposent deux voies complémentaires. La voie du juste milieu pour le bouddhisme et comment ne pas être un obstacle à soi-même pour le stoïcisme.
Justement, est-ce que tu pourrais approfondir ce point et nous parler de la voie du juste milieu dans le bouddhisme, s'il te plaît?
L'essentiel de l'enseignement de Bouddha est contenu dans les quatre nobles vérités. La première se réfère à la douleur, parce que le Bouddha constate que tous les êtres éprouvent une forme d'insatisfaction qui se transforme en douleur. Et quand la douleur devient durable, elle devient souffrance. La deuxième nous parle de la cause de la souffrance, qui est l'avidité, tanha, le désir des possessions et la passion, qui nous entraîne dans une insatisfaction permanente. Elle nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité et nous pousse à nous interroger sur la possibilité de nous en délivrer. La troisième noble vérité confirme qu'il est possible de parvenir à la délivrance de la souffrance, ce qui signifie aussi se libérer de l'ignorance. La quatrième noble vérité propose la voie pratique pour y parvenir, qui est l'octuple noble sentier, composé de trois éléments, l'éthique, la discipline mentale et la sagesse. Ce sont en fait des pratiques mentales, émotionnelles et corporelles pour se libérer de la souffrance et atteindre un état de bonheur philosophique. Observer que la cause de notre souffrance vient de l'attachement à notre ego personnel, mais que nous portons en nous une conscience supérieure qui les regarde agir et peut les maîtriser. Si nous faisons le nécessaire, nous pouvons alors devenir des agents actifs et transformer la situation. Le Bouddha dit aussi, par soi-même, en vérité, est fait le mal. Par soi-même, on est souillé. Par soi-même, est évité le mal. Par soi-même, en vérité, on est purifié. Pureté et impureté sont personnelles. Nul ne peut purifier autrui. Devenir responsable de nos actes est la clé de la délivrance de la douleur.
En ce qui concerne ce que tu as dit sur le stoïcisme, comment peut-on faire pour ne pas être justement un obstacle pour soi-même?
Eh bien, ce sont les enseignements stoïciens qui répondent à cette question. Il faut savoir que ces enseignements se distribuent en trois disciplines, la physique, la logique et l'éthique. Et leurs pratiques spirituelles sont l'examen des consciences, ce dont on parlait avec Marc Aurèle, qui se pratique quotidiennement pour savoir quel sens donner à notre journée et qu'est-ce que nous apprenons d'elle. La contemplation de la nature, la physis, puisque nous en faisons partie et cette contemplation n'est pas seulement dans les sens, scientifique, mais aussi une véritable méditation sur le fait de notre lien intime avec ce qui vit à nous, à travers nous et dans l'univers. L'usage de la raison dans le sens de l'intelligence cosmique de laquelle fait partie l'intelligence humaine, et en même temps la capacité de se détacher un peu des choses et les observer avec une certaine distance et neutralité, comme l'exprimaient les textes de Marc Aurèle que nous avons lus. L'art du dialogue, puisqu'apprendre à bien penser par la logique doit nous conduire à bien échanger avec les autres, dialoguer, parler de cœur à cœur. La méditation sur la mort, c'est-à-dire assumer l'aspect éphémère de la vie, comme quelque chose d'également naturel qui ne doit pas nous faire peur. Et bien sûr, la maîtrise des passions, puisque ce sont elles qui nous déportent et nous font perdre la maîtrise de nous-mêmes et le sens de l'existence. Alors, pour illustrer un petit peu ça, quelques pensées. C'est un corps Épictète qui nous dit « Accuser les autres de ses malheurs, c'est l'effet d'un ignorant. Les rejeter sur soi, c'est commencer à s'instruire. N'en accuser ni les autres, ni soi-même, c'est être sage. » On devrait bien méditer sur cette phrase. Donc, pour les stoïciens, la sagesse consiste à vivre en harmonie avec la nature. Et le sage est celui qui devient maître de lui-même, puisque la plus grande des libertés est celle de se maîtriser soi-même. Sénèque dira, obéir aux dieux, voilà notre liberté. Mais les dieux auxquels il fait allusion ne sont pas simplement des figures mythologiques, ce sont les lois de la nature. Si nous agissons en harmonie avec ce qui est le meilleur pour nous-mêmes, nous allons extraire une puissance d'être qui s'appelle la vertu, la force de l'être.
Par rapport à cet enjeu de la vertu, comment agir conformément aux lois de la nature?
Eh bien, en les investiguant et en les contemplant. D'où cette première branche de leur enseignement, la physique, qui vient du mot physis, la nature. D'ailleurs, je vais faire tout un cycle sur ce sujet, petit spot publicitaire, si vous voulez approfondir la question. Mais pour répondre encore à cette question, je préfère, encore une fois, donner la parole au philosophe stoïcien. Ainsi, l'essentiel de l'enseignement d'Épictète se résume dans cette phrase qui est devenue très célèbre. Il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos valeurs, nos opinions, nos pensées, notre comportement, donc nos actes, tout ce qu'on peut maîtriser à l'intérieur de nous-mêmes. Ce qui ne dépend pas de nous, ce sont les corps, les biens matériels, la réputation, les dignités et les honneurs, tout ce qui ne dépend pas de nos propres actes, mais des circonstances extérieures. Épictète rajoute, tu n'as pas choisi de naître comme prince ou comme esclave, mais une fois que le destin t'a mis dans telle ou telle circonstance, ce qu'on attend de toi, c'est que tu joues bien le rôle que la vie t'a invité à jouer. Ou encore, tu ne dois pas livrer la terre des monstres parce que tu n'es pas né Hercule ni Thésée, mais tu peux les imiter en te libérant toi-même des monstres formidables que tu portes en toi. En toi, il y a un lion, un cinglé, une hydre. Essaie de les contrôler. Essaie de maîtriser la douleur, la peur, l'avidité, l'envie, la malignité, la paresse et la gloutonnerie. Et l'unique manière de vaincre ces monstres est d'avoir présent à l'esprit les dieux, leur être fidèle et obéir dignement à leur mandat. Dans ses pensées pour moi-même, Marc Aurèle écrit « Au petit jour, lorsqu'il t'en coûte de t'éveiller, et cette pensée présente à l'esprit, c'est pour faire œuvre d'être humain que je m'éveille. Serais-je donc un corps de méchante humeur si je vais faire ce pourquoi je suis né ? Et c'est en vue de quoi j'ai été mise au monde, ou bien ai-je été formée pour rester couchée et me tenir au chaud sous mes couvertures? Es-tu donc née pour te donner de l'agrément? Et somme toute, es-tu fait pour la passivité ou pour l'activité? Quand nous nous sentons paresseux, mais que la motivation est d'accomplir une bonne action, que celle-ci nous fasse nous lever et accomplir notre œuvre. C'est une question à se poser chaque matin. Je vais revenir un petit peu sur ces pensées, puisqu'elles sont vraiment très riches et méritent qu'on s'arrête un petit moment. Donc l'essentiel de ces enseignements, c'est vraiment nous centrer. Et je crois que dans la conférence de Fernand Charles, il avait expliqué cette notion très importante sur l'instant présent, sur ce vraiment qui est à notre portée, sur ces petits instants dans lesquels se joignent les futurs et les passés, et qui est l'unique chose que nous possédons. En vrai. Et donc, si on est capable de se retourner sur soi-même, réfléchir, observer nos comportements, nos actions, et justement répondre d'une façon la plus harmonieuse et la plus juste à ce qui nous est demandé à un moment donné, et qu'on est un peu moins attiré par les biens matériels, la réputation, le monde des apparences, enfin tout cet éclat et tous ces jeux d'ombre qui nous renvoient l'environnement, alors l'être peut se recentrer, se concentrer à lui-même et entrer en contact avec sa propre réalité transcendante, ce qu'il est véritablement. Et c'est cet être qui va comprendre une autre idée très bonne de la deuxième pensée d'Épictète, Sachez qu'Épictète était à l'opposé de Marc Aurèle. Marc Aurèle est empereur, Épictète est un esclave qui gagne sa liberté quand il montre à celui qui était son maître, en fait, qu'il avait une véritable liberté intérieure. En réalité, l'essentiel pour les stoïciens, c'est joue bien le rôle que la vie t'a invité à jouer. Donc, peu importe les circonstances, comme disait aussi, je crois, Byzance, à un moment donné, où un philosophe avait été transformé en balayeur par les jeux du pouvoir, du destin, on dit que jamais la ville avait été aussi bien balayée. Donc, faisons bien, très très bien ce qu'on a à faire, et on trouvera le bonheur d'être nous-mêmes en accomplissant notre action. Et aussi, l'autre idée très belle, c'est qu'effectivement, à chacun de nous dort un héros. Nous pouvons être des héros. Mais au lieu de chercher ces figures un tout petit peu parfois imaginaires, du lion, du cinglé, de l'hydre, ces grands ennemis, ces grands adversaires, ce qu'on voit aujourd'hui être combattu par les super-héros des comics, eh bien, si on, encore une fois, on travaille cette réflexion, cette observation de nous-mêmes, on va se rendre compte que nous avons plein d'ennemis à vaincre à l'intérieur de nous. Maîtriser la douleur, la peur, l'avidité, l'envie, la paresse, la gloutonnerie et bien d'autres choses. Donc, en fait, on peut développer une vie héroïque, on peut développer une vie de tragédien ou de comédien, selon ce qui soit notre vocation. On peut développer une vie dans laquelle on peut être fier d'être maître de notre destin. Et j'aime beaucoup cette pensée de Marc Aurèle dans laquelle il explique cette idée de sentir la puissance et la joie de se réveiller chaque jour pour faire œuvre humaine, pour accomplir notre destinée humaine, et pas pour rester dans une paisible et paresseuse, entre guillemets, mollesse horizontale. Donc cette idée de la verticalité est un peu à l'image de l'ascension que chaque être doit accomplir à l'intérieur de soi. C'est à ça que nous invite les stoïciens. Je ne crois pas qu'il y a quelque chose de mauvais dans tout cela, mais au contraire, une capacité à développer une force morale qui aujourd'hui pourrait nous être d'une immense source d'inspiration.
Merci Laura. Si tu devais maintenant résumer, quelles sont pour toi les convergences entre le bouddhisme et le stoïcisme ?
Bien, comme je le disais au départ, c'est cette capacité de se situer dans un monde mouvant, où c'est très important de vaincre la séparativité, parce que nous devons développer cette conscience d'appartenir à une seule réalité, à un seul univers, à une seule humanité. Il faut savoir que c'est les Romains qui développent ces concepts du citoyen du monde, et ils se considèrent vraiment frères au-delà de toutes les différences, des races, des cultures et des langues. C'était vraiment quelque chose de formidable par rapport à l'époque. Et dans la vision du bouddhisme, du Bouddha et le bouddhisme ésotérique aussi, il y a toute cette idée de l'appartenance à une seule humanité, donc cette notion de vaincre la séparativité qui nous isole les uns des autres. Donc en fait, tout cela nous amène à que le point commun qui me semble à retenir, parmi d'autres, c'est d'une richesse extrême, mais c'est intéressant de voir comment il y a une convergence des quêtes, indépendamment de la différence des siècles, ce qui nous invite à la découverte de l'homme intérieur, l'homme toujours en tant qu'être humain. Et cet homme intérieur, cet être intérieur, doit apprendre à diriger l'homme extérieur. Cet homme extérieur est trop dépendant des circonstances. Cet homme intérieur peut être cette phare, cette île, cette stabilité qui va pouvoir affronter les épreuves de l'existence. Il va pas se détourner, il va pas s'échapper, il va pas fuir justement au-dessous de ses couvertures ou s'isoler. Non, 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 il va les assumer, esclave, empereur, peu importe la mission ou fonction qu'il aura dans la vie, chaque instant est l'opportunité de cet alignement intérieur entre les cœurs vivants et justement la capacité de rendre le monde meilleur. Sans un retour à la conscience de cet être intérieur ou la dimension spirituelle en chacun, nous restons à la merci des vagues, des circonstances, des contrariétés de l'existence, agissant avec des pleurs ou de la colère. Ces philosophies d'Orient et d'Occident qui touchent à la dimension atemporelle de l'être humain nous invitent au contraire à élargir la conscience, à sortir de la focalisation sur notre propre souffrance, sur notre petitesse qui nous conduit à la victimisation, la servilité et le sentiment d'impuissance. Si nous pouvons faire quelque chose de petit ou de grand, nous devons le faire. Le bouddhisme et le stoïcisme nous poussent à nous poser la question suivante. Comment puis-je rendre le monde plus beau, plus juste, plus vrai, plus authentique à travers mon comportement? Quelle est ma part dans la construction du monde? Si je cultive mon propre jardin, le monde ne s'en portera que mieux. C'est une volonté de se reprendre en main, de se maîtriser, tout en agissant pour le bien de tous. Parce qu'il faut jamais oublier cette notion de restitution et d'agir pour le bonheur des autres. Dans ce monde terriblement incertain, confus, où tout part dans tous les sens, nous pouvons nous demander comment agir, même à petite échelle. Au lieu de protester, de s'indigner, de manifester, nous pouvons rester positifs et rejoindre les initiatives et les actions intéressantes et utiles auxquelles nous pouvons nous associer. On peut toujours construire quelque chose là où on est. Agir selon ce qui est positif en soi, agir pour transformer l'environnement et en même temps rester humble et comme le petit prince s'occuper de sa propre rose. Si chacun cultivait sa petite rose, il y avait pour ami un renard, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Commençons donc par agir sur ce qui est à notre portée, car on peut toujours enrichir le monde de notre action. D'une manière vraiment très simple et modeste, voici quelques éléments de ces messages de la grande sagesse des bouddhistes et des stoïciens que je voulais partager avec vous, notamment en vous lisant leurs pensées pour donner envie de vous rendre amis de ces merveilleux philosophes qui restent d'une grande, grande actualité et peuvent nous être de grands secours pour apaiser nos âmes tourmentées dans les temps troubles que nous vivons.
Merci beaucoup, Laura. Nous allons passer maintenant aux échanges puisque vous êtes déjà nombreux à nous poser des questions. Et nous allons commencer par une première question de Gilles qui te demande comment connaître notre propre devoir dont parle Marc Aurèle. Connaître notre propre devoir dont parle Marc Aurèle.
Eh bien, la première chose, c'est savoir que nous avons déjà un devoir en tant qu'être humain. Donc, pour cela, il faut savoir ce qu'est l'être humain. Dans notre premier exercice, c'est, je dois faire un peu la pub, faire un peu de philosophie. Si je ne sais pas ce que je suis en tant qu'être humain, si je n'arrive pas à identifier au moins l'attelage de l'âme platonicien avec mon cheval rétif et mon cheval courageux et l'orige qui conduit tout ça, c'est évident que la suite de la compréhension de mon devoir va être un peu complexe. Donc, pour cela, il faut revenir à la célèbre phrase de Delphes, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » Donc, le devoir se déduira de cette meilleure compréhension de qui nous sommes et quelle est notre place dans l'univers.
Merci Laura. Eric demande « Comment trouver sa place aujourd'hui dans une société en crise ?»
C'est toujours la même réponse que nous venons de trouver. Étant capable d'identifier très clairement ce qui dépend de nous. C'est-à-dire, à chaque jour que nous avançons, disons chaque pas que nous donnons devant nous, nous sommes déjà dans la vie, dans un chemin. Donc, première chose à voir, je m'élève aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour, à ma petite échelle, diminuer cette crise ? Avec toutes ces épreuves du confinement et différents problèmes que nous avons rencontrés, nous avons vu qu'il y a eu une panoplie d'attitudes possibles. Il y a depuis les gens qui se sont immédiatement mis au service des autres pour se dire, bon voilà, en quoi je peux aider ceux qui sont dans la difficulté quand ils pouvaient le faire d'une certaine manière. Et d'autres qui, au contraire, se sont repliés sur eux-mêmes. Donc toute la question est de savoir, vais-je être un être ouvert qui va justement essayer de commencer par ce qui est plus près de moi, c'est-à-dire, je sais pas, je vois une rue sale, je la nettoie. Je vois par terre 40 000 masques que les gens laissaient tomber, au lieu de râler parce qu'il y a les masques par terre, je les ramasse, je mets la poubelle. Donc, je peux commencer par faire quelque chose là où je suis aujourd'hui et maintenant. Et vous allez voir, chaque petite action que vous allez faire dans ce sens va libérer de l'énergie, de la clarté, elle vous conduira à la suivante. Après, c'est comme les petites graines de Hansel et Gretel. Mais il faut pas aller vers la sorcière. Il faut aller vers la sagesse. Donc, pas à pas.
Merci Laura. Alors, sur le bouddhisme, une question de Cyril. Y a-t-il une notion d'éternel retour dans le bouddhisme?
Quelque part, oui. Mais ça, ce sera un sujet un peu plus vaste. Là, j'ai fait vraiment le début, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle les Hinayana, peu importe. Il faut savoir qu'en fait, que le Bouddha n'est pas le seul à venir apporter cette force de libération, de sagesse à l'humanité. Les Bouddhas étaient nombreux. Donc il y a les Bouddhas du passé, les Bouddhas du présent, les Bouddhas du futur. Donc il y a toute une conception de cyclicité dans l'évolution de l'univers et de l'humanité. Et je vous dirais même quelque chose d'absolument extraordinaire, il y a même une école des Bouddhas dans le bouddhisme qu'on appelle la voie des Bodhisattvas. Qui sont les Bodhisattvas? Les êtres qui décident de renoncer à leur propre libération pour aider tous les autres êtres à atteindre la libération de l'ignorance et donc de la douleur. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a une conception de la cyclicité de la nature et de l'histoire.
Une autre question de Didier pour revenir sur le sujet du devoir. Être toujours dans le devoir, n'est-ce pas oublier qui nous sommes et nos droits?
Je crois pas. Il faut comprendre peut-être la notion du devoir, pas comme une chose rigide qui nous contraint parce qu'on est forcé de l'extérieur. Parce que si c'est ça le devoir, c'est vrai que c'est un peu amer et désagréable. La notion du devoir, je l'associerai à le vieux concept sanskrit du dharma. Le dharma vient de la racine dr, ce qui soutient, ce qui porte toutes les choses. Pour les anciens, il y avait une notion essentielle. C'est qu'il y a une intelligence, un principe intelligent qui régit le monde. Il y a une idée, c'est le théos des Grecs. Et les dharmas, justement, qu'on trouve à la fois dans le bouddhisme, dans la base de la philosophie hindoue, qui nous explique effectivement qu'il y a un ordre naturel dans les choses. Un arbre a une destinée d'arbre, une souris a une destinée de souris, et un humain a une destinée d'humain. C'est-à-dire, il a des choses qu'il peut faire dans sa qualité humaine, et justement, son devoir, c'est de pouvoir donner le meilleur de lui-même. Donc, mais en faisant cela, il s'épanouit, il se développe comme une petite graine qui va donner la plante de laquelle il porte, entre guillemets, son code génétique. Je vous dirai plus. J'aime quelque chose qui n'est pas strictement bouddhiste, mais qui est dans l'hindouisme, qui dit que l'être humain a au moins trois devoirs. Il a un devoir envers les dieux, un devoir envers les ancêtres et un devoir envers les sages. C'est-à-dire, pour les anciens hindous, et donc ce qui était dans cette logique un petit peu du dharma, nous naissons avec des devoirs, et pas seulement avec des droits, mais surtout des devoirs, les devoirs envers les dieux. Comme les dieux pour eux, c'était les forces de la nature, on accomplit son devoir avec les dieux en plantant un arbre, par exemple. Donc, en saluant les forces de la vie, en perpétuant ces forces de vie. Les devoirs envers les ancêtres, c'est en perpétuant, par sa progéniture, la lignée vivante. Et pour le devoir envers les sages, il fallait écrire un livre. Bon, c'était surtout lié avec les brahmanes, mais dans le sens justement de transmettre la sagesse pour faire perpétuer la chaîne de la connaissance à travers le temps. Donc, dans la notion du devoir, il y a l'idée de se sentir faire partie de la chaîne du vivant. Tandis que cette accentuation excessive que nous avons en Occident du culte de nos droits, entre guillemets, en oubliant nos devoirs, c'est peut-être né avec la Révolution et avec la vision des Lumières, mais c'est un tout petit peu égocentrique et anthropocentrique, et c'est oublier que nous faisons partie d'une grande, grande chaîne de vie dans laquelle on doit remercier, entre guillemets, ces forces de la nature et vivre les devoirs avec joie et pas comme une contrainte. Et les droits naissent de ces mêmes devoirs, bien accomplis.
Pour revenir au stoïcisme, une autre question de Ludovic. Peut-on dire que le stoïcisme est une voie spirituelle et métaphysique, ou bien peut-on l'intégrer dans une pensée matérialiste?
Non, je ne crois pas qu'on puisse la considérer matérialiste. Simplement, il y avait, disons, à l'époque, romaine, enfin, le stoïcisme est né en Grèce, hein, en même temps que d'autres écoles de philosophie. Et par la suite, elle va surtout atteindre son grand apogée à travers des philosophes romains, dont on vient de citer Épictète et Marc Aurèle, et bien sûr Sénèque, dont je n'ai pas trop parlé, mais qui mérite aussi une place importante. En réalité, il y a bien sûr une dimension métaphysique dans la pensée stoïcienne, mais ils ont, je dirais, volontairement mis l'accent par rapport à leurs trois disciplines qui sont la physique, l'éthique et la logique, à la dimension éthique, la dimension du comportement humain, pour justement ne pas rentrer dans des spéculations métaphysiques trop complexes. Les courants plus métaphysiques que l'on connaît, c'est la voie platonicienne et néoplatonicienne, à cette époque, ou bien sûr aristotélicienne, mais au niveau plus métaphysique, c'est les côtés platoniciens qui l'emportent. Et là, on a tout un courant plus philosophique et métaphysique. Et les stoïciens, ceux dont nous avons plus de traces, c'est de leur vision de comment cette conception de la nature et de l'homme va également nous amener un comportement juste en adéquation avec ces lois fondamentales de la nature. Mais si on rentre dans la compréhension de ce qu'est la physique, tout ce qu'il intégré là-dedans comme étude de la nature, des lois de la nature, des lois du vivant, etc., il y a une dimension métaphysique très importante dont je parlais un petit peu dans ma conférence de jeudi prochain. Donc, c'est plutôt métaphysique et pas matérialiste, puisqu'au fond, il y a la notion de la, ce qu'ils appellent la raison ou la providence ou la grande intelligence, de laquelle l'intelligence humaine est une petite parcelle.
Une autre question de Valérie. Comment se fait-il que ces sagesses atemporelles, qui semblent toujours d'actualité, ne soient pas plus pratiquées aujourd'hui ?
On se les demande. Hein, peut-être parce que justement, c'est pas la sagesse qui est le modèle qui nous inspire aujourd'hui. Hein, les modèles qui sont plus, entre guillemets, à la mode, c'est plutôt la non-sagesse. Donc c'est une question de civilisation et des moments historiques. Mais si nous décidons tous, grâce au fait qu'on est un peu secoué par les épreuves que nous vivons, qu'on a besoin de revenir à la philosophie, eh bien, elle est toujours prête à nous écouter. Parce que de vieilles sagesses disaient que quand les disciples prêts, les maîtres arrivent, les réponses de la sagesse sont disponibles. Il faut que nos oreilles soient ouvertes pour les écouter. En tout cas, je vous donne un scoop. Actuellement, un des best-sellers les plus extraordinaires qui ont les plus grandes ventes, par exemple en Angleterre, c'est les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Tout d'un coup, ça y est, ils sont en train de devenir des grands, grands auteurs que l'on écoute avec beaucoup d'attention. Donc, si la crise et les difficultés, les épreuves éveillent en nous un tout petit peu une graine de philosophe, je suis sûr qu'on écoutera avec davantage d'attention tout ce que ces grands philosophes ont à nous apprendre. Tout n'est pas perdu.
Merci beaucoup Laura pour tes réponses, pour tes éclairages, pour ces apports précieux et utiles qui, n'en doutons pas, surtout avec ta conclusion, vont nous aider à traverser cette époque instable et troublée. Et si tu veux nous adresser quelques mots de conclusion.
Eh bien, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir vous voir en vif et en direct. Pour l'instant, nous sommes réduits à nous connectés à travers simplement deux dimensions, mais j'espère que quand nous reviendrons aux trois dimensions, on pourra échanger encore plus, d'une manière encore plus chaleureuse et vivante. Donc je vous remercie votre compréhension de savoir que c'est un tout petit peu difficile pour nous cet exercice de parler sans avoir vraiment les répondants et comprendre vraiment comment vous recevez ce que nous essayons de vous transmettre, mais j'espère que malgré les difficultés techniques, nous avons réussi un tout petit peu à vous passer les messages et la grande flamme, l'étincelle de ces belles sagesses et qu'elles puissent vous inspirer pour continuer à avancer dans votre vie et vous aider à vaincre quelques difficultés. Donc, j'espère que nous pourrons vous retrouver dans d'autres occasions et que vous allez tomber amoureux de la sagesse, puisque c'est ça les philosophes, on est des êtres amoureux. En tout cas, pour ceux que je ne connais pas, je suis content de vous découvrir, même ponctuellement, et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à dialoguer. Merci à tous de votre présence, et à une prochaine.